En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Décorporation, lumière intense, tunnel, sentiment, bien-être et de plénitude. Vécues par des millions de personnes, les expériences de mort imminente, alias les EMI, font l'objet d'études scientifiques qui tentent d'en percer le mystère. En tout cas, d'après plusieurs études internationales, 10 à 20% des patients réanimés après un arrêt cardiaque vivraient de telles expériences. Alors voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec mes trois invités. L'expérience de mort imminente, tout simplement nous réconcilier avec la mort, puisque nous sommes quand même dans quête de sens. Eh bien, tentative de réponse avec mes invités. Je commence par accueillir Stéphane Alix. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Eh bien, ravi de vous recevoir. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez fondé l'INRES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Alors, ça peut faire fuir certains auditeurs, peut-être. N'empêche que ça permet quand même d'explorer un terrain qui est encore très peu exploré, au fond. Encore aujourd'hui, on se pose beaucoup, beaucoup de questions.
Oui, et puis surtout, le but premier de l'INRES était de pouvoir faire en sorte que les gens qui vivent des expériences un peu inexpliquées puissent trouver un espace d'accueil et d'écoute. Parce que, qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens autour de nous vivent des expériences parfois intrigantes, bizarres, qui sortent un peu des normes. Parfois, ça peut s'expliquer par des psychopathologies,
il y a des
espaces pour ça, mais parfois, ça n'est pas le cas, et ces gens-là sont dans notre société, qui est vraiment coupée de ces dimensions-là, dans une grande solitude, une grande détresse. Donc, le but de l'INRES était initialement d'accueillir et de donner la parole, et surtout de l'écoute à ces gens-là, et accessoirement aussi de diffuser de l'information, les recherches scientifiques qui existent sur les sujets, les approches cliniques. Un vrai travail sérieux, journalistique et scientifique.
Et vous avez fondé également le magazine Inexploré, que nos auditeurs connaissent peut-être, qui applique des méthodes d'enquête tout à fait rigoureuses, justement pour explorer avec le plus de sérieux possible tous ces phénomènes inexpliqués. On peut mentionner votre dernier ouvrage, en tout cas, qui a attiré mon attention, « La mort n'existe pas ». 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité chez HarperCollins. Stéphane X, pourquoi cet ouvrage, tout simplement maintenant ?
C'est une synthèse de... Moi, mon interrogation et mon travail sur la question de la vie après la mort, de la conscience, est née après la mort de mon frère dans un accident de voiture en Afghanistan, il y a plus de 20 ans de ça. Et pendant les 20 dernières années, j'ai travaillé à essayer de comprendre qu'est-ce que l'on sait de la mort, qu'est-ce que l'on sait de la conscience, qu'est-ce que l'on sait de la relation entre cerveau et conscience. Comment on explique toutes ces expériences un peu hors normes, dont celle dont on va parler aujourd'hui, l'expérience de mort imminente? Est-ce que c'est du domaine uniquement de la rêverie, de l'hallucination, ou est-ce qu'il y a des fondements qui permettent scientifiquement de montrer qu'il s'agit d'autres choses? Et donc ce livre, La mort n'existe pas, c'est vraiment la synthèse de 20 années d'enquête et d'expérience personnelle autour de ce sujet. Et pourquoi ce titre qui peut paraître provoquant? C'est parce qu'effectivement, la mort n'existe pas.
C'est un passage.
On va sans doute en parler.
Non, on en est convaincu. Quand on est chrétien et qu'on a la foi, que c'est un passage, mais que la mort n'existe pas, vous allez nous raconter ça. Vincent Terrien est également avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour, merci.
Ravi de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Journaliste que vous êtes, alors vous avez eu une vie avant, on va dire, une drôle d'expérience, un échange, vous allez nous expliquer, un échange post-mortem vécu avec votre papa.
Qui est juste à côté, à Montparnasse, au cimetière du Montparnasse.
Incroyable, hein.
Oui.
Mais écoutez, alors ça, c'était pas prévu.
Non.
Je suis surprise. Donc vous avez une grande carrière de journaliste, d'agencier derrière vous, combien d'années, je sais pas, une vingtaine d'années,
oui,
par beaucoup d'années. Et puis vous êtes ensuite consacré à la réalisation de projets internet, etc. Et puis tout à coup, vous avez vécu cet échange étrange avec votre père. Racontez-nous en deux mots comment ça s'est passé.
Oui, alors ce que je peux surtout dire en préambule, c'est que cet échange, je ne le souhaitais absolument pas.
C'est ça.
Je ne voulais avoir aucun contact avec mon père décédé.
Bon. On imagine.
Parce qu'il y en a qui cherchent le contact.
Ouais.
Et moi, je ne le cherchais pas du tout parce que, je ne vais pas raconter le détail, c'est dans le livre, mais notre relation a été tellement difficile pendant toute sa vie. Mon père était un patron d'industrie, très autoritaire, très, 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 très difficile à vivre. Et quand il est décédé, je ne dis pas que j'ai éprouvé un soulagement, j'y ai eu une émotion forcément. Mais néanmoins, je n'ai absolument pas cherché à entrer en contact avec lui. Et au contraire.
Et qu'est-ce qui s'est passé
en... Et je n'ai d'ailleurs aucune qualité de voyance ou d'autre chose.
D'accord.
Et je ne l'ai pas du tout cherché. Et puis je pense qu'il faut mieux laisser les morts là où ils sont. Trois jours après son décès, je suis en réveil en pleine nuit.
Ouais.
Je ne suis absolument pas satisfait de la façon dont on se prépare mes obsèques. Ça démarre comme ça.
D'accord.
J'ai un choc. Je me dis, bon, ben ça va, je suis fatigué, je vais m'endormir, ça ira mieux demain matin. On avait quand même 3 jours après le décès. Bon, il y avait tout.
L'organisation.
On avait parlé 5 heures avant avec ma sœur et mon oncle curé de l'organisation des obsèques. Tu iras à la première heure demain matin à Saint-François-Xavier voir le prêtre pour lui demander qu'il trouve quelqu'un pour célébrer ma messe qui ne soit pas mon frère. Mon père était mort fâché avec son frère.
D'accord.
Curé à Notre-Dame.
Ouais.
Et il ne voulait pas que ce soit son frère qui célèbre sa messe. 3 jours après, il me réveille pour me dire qu'il n'est pas content. Parce que j'étais en fait titulaire de ses volontés, il m'avait tout laissé. Et ça commence comme ça.
D'accord. Incroyable. Et va s'en suivre...
J'en ai encore des frissons, oui. Quand
oui, ça se voit.
Ça m'a tellement perturbé à l'époque.
J'imagine.
Au départ, moi, je ne veux pas de ça.
Ouais.
Mais je me dis, bon, allez, ça va, t'es fatigué, t'es en train de délirer, ça ira mieux demain, après-demain. Mais ça recommence toutes les nuits, à 3h du matin, pétante, à partir de ce jour-là, toutes les nuits à 3h.
Wow.
Et va s'engager un dialogue que je refuse au départ. Je ne veux pas rentrer dans son jeu. Je veux dire, il est en train de chercher à régler des comptes. Et progressivement, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Que ses intentions sont des intentions très positives, très constructives, compassionnelles. Mm-hmm. Qu'il cherche quelque chose dont il a besoin, lui, et dont il m'explique que ça va me servir moi aussi. Si j'accepte le dialogue, parce qu'au début, je freine, même en cours de dialogue, puisque ça va durer des semaines et des semaines, je freine presque tout le temps, en disant non, mais ça va, t'es en plein. Voilà, comment ça démarre.
Ouais, et alors, en quoi y a-t-il un lien avec la mort imminente, précisément?
Il y en a un, parce que ça, enfin, c'est pas moi qui l'ai cherché, mais il y en a un, puisqu'en fait, il est là, il est d'une présence, je le sens extrêmement proche de la Terre. Il est dans une espèce, il me le dira d'ailleurs dans le livre, il est dans une zone où il se sent très proche de la Terre encore.
Mmh.
Vous voyez ?
Mmh.
Il me parle déjà de ce qu'il entrevoit, mais il est très proche. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce lien, comme ceux qui sont partis reviennent
Alors, en tout cas, vous racontez votre histoire, vie sans crainte, c'est encore mieux après. L'essentiel, c'est que, en tout cas, voilà, ça vous a apporté, vous allez nous le dire, ça, pour le coup, des choses positives. L'expérience d'un homme cartésien guidé par son père depuis l'au-delà chez Jouvence. Et on va demander à Patrick Tellier ce qu'il en dit. Est-ce qu'il a déjà entendu ce genre de témoignage? Bonjour, Patrick Tellier.
Bonjour.
Ravi de vous entendre, voilà, vous qui êtes en ligne avec nous. Vous qui avez été pendant 12 ans, je crois, un médecin au Bureau des Miracles de Lourdes, et vous avez publié un ouvrage consacré justement à ces expériences de mort imminente, Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. C'est paru il y a quelques années aux éditions Effata. Alors juste une petite...
Non, aux éditions Arthège.
Arthège, excusez-nous. Patrick Taillet, est-ce que ça vous surprend ce témoignage de... Alors je sais qu'on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais ça fait que ça rentre quand même dans des expériences étranges autour de la mort de Vincent Thérien.
C'est possible. Je pense que c'est possible. J'ai déjà eu des témoignages dans le même sens.
Ouais.
De personnes qui ont perdu des gens très proches et qui viennent pendant les premiers jours. Enfin, ça, en général, ça ne dure pas très très longtemps.
Ouais.
Mais en tout cas, juste après le décès, ces gens proches, que ça peut être un enfant, ça peut être un parent, interpellent la personne qui est restée ici et discutent avec. Mettent des choses au point. Ça, c'est possible.
Ouais, c'est étonnant. En tout cas, c'est très étonnant. Et pourquoi c'est ce livre, étonnant. Alors, pour voilà, revenir un petit peu sur le sujet global hein, des expériences de mort imminente, pourquoi ce livre, Patrick Taillet, précisément, voilà, parce que vous avez... Oui.
Moi, j'avais lu le livre Principe du docteur Raymond Moody, Life After Life, le premier livre qui est sorti sur le sujet en 1975. Ouais. J'étais trop occupé pour aller plus loin. Et une fois que j'ai été à Lourdes, à partir de 1998 jusqu'à 2010, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. J'étais là pour écouter les témoignages. Et j'ai commencé à avoir 1, 2, puis 3, puis 5, puis 10 personnes qui sont venues me voir en me disant, vous savez, c'est pas un miracle que j'ai vécu, mais... J'étais considéré comme mort cliniquement, je suis revenu à la vie, et dans le laps de temps où j'étais de l'autre côté, j'ai fait une expérience extraordinaire qui m'a marqué profondément et à laquelle je pense tous les jours. Ouais. Je n'ai jamais osé en parler à personne, mais comme vous êtes là pour écouter, si vous voulez bien, je vais vous le raconter. Et moi, j'ai pris note, ça m'a intéressé, j'en ai eu plusieurs. Et je me suis dit, bien, quand je prendrai ma retraite, je reprendrai tout ce qui a été écrit là-dessus, je vais réétudier la question et je pourrai sortir un livre avec mon expérience à Lourdes et avec ma conviction que ces expériences de mort imminente sont tout à fait en accord avec la foi chrétienne.
D'accord, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui, pour nous rassurer un peu aussi, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais traité ce sujet, dont je disais à mes invités très humblement, hein, dans cette émission, on a beaucoup, beaucoup hésité, mais avec des gens sérieux, on peut parler de tout, et je suis ravie de vous avoir tous les trois. Stéphane, Alix, c'est vrai que ça peut faire quand même peur. Il s'agit quand même de millions de personnes qui ont vécu ça, hein. De personnes, Stéphane Alix.
Les études qui ont été menées par différentes équipes ont effectivement mis en évidence le chiffre de entre 18 et 22, 23% de gens qui vivent un arrêt cardiaque qui ont une expérience de mort imminente.
Qu'est-ce que c'est que le mort? Alors, allons-y, qu'est-ce que c'est que l'expérience de mort imminente?
C'est une expérience psychospirituelle qui peut se produire et qui se produit telle qu'elle est connue majoritairement par vos auditeurs pendant un accident de voiture, d'accord, un coma, une période d'inconscience, un arrêt cardiaque. Ou à l'inverse, ou plutôt que d'être complètement inconscient tel qu'on devrait l'être, a priori si notre cerveau ne fonctionne pas, les gens décrivent reprendre conscience à l'extérieur de leur corps, si par exemple l'expérience arrive dans un bloc opératoire pendant une opération au cours duquel le patient a un arrêt cardiaque, il reprend conscience au plafond, il observe la scène au plafond, il décrit ce qui se passe, l'équipe soignante en train d'essayer de le ranimer. Après, il y a pour une grande partie des témoins, ils rapportent avoir été confrontés à une sorte de tunnel, une lumière à la fois...
On entend beaucoup ça.
À la fois extrêmement brillante, mais pas éblouissante, et puis une lumière qu'ils décrivent comme quelque chose de vivant. Ce qui est intéressant, c'est que dans la sémantique même qui est employée par les témoins, il y a une très grande difficulté à caractériser ce qu'ils ont vécu, parce que ça dépasse nos outils de verbalisation.
Terrestre, quoi.
Ça dépasse la possibilité. Comment vous décrivez une lumière qui est vivante, qui est pleine d'amour, qui vous transcende, qui vous attire, qui est et qui vous plonge dans un espèce de bien-être et d'extase que vous ne connaissez pas même sur Terre. Et cette expérience dure quelques secondes, quelques minutes. Il peut y avoir aussi la rencontre avec des êtres de nature spirituelle, des proches décédés. Et il y a toujours une espèce de point de non-retour où il est dit à l'expérienceur « c'est pas ton moment, c'est pas le moment, tu reviens ». Et l'expérienceur revient comme s'il était aspiré, parfois avec brutalité, dans son corps et réintègre le corps. Je me souviens d'un témoin que j'avais rencontré à Toulouse qui m'a dit « mais quand je suis rentré dans mon corps, c'était tellement désagréable, j'ai eu l'impression de renfiler une combinaison de plongée mouillée ». Vous savez, c'est étriqué, d'accord, c'est pas agréable. Et puis on retrouve la souffrance, on retrouve son corps en fait.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux aspects très notables dans cette expérience-là. Le premier, qui pour moi, en tant que journaliste, valide la réalité fondamentale de l'expérience, c'est qu'un certain nombre de témoins, dans cette partie où ils décrivent être à l'extérieur de leur corps, sont en capacité de décrire des choses précises qui ont été faites pendant la réanimation ou sur le lieu de l'accident, des choses que, quand on examine ça en tant que journaliste que je suis,
d'accord,
on ne peut pas attribuer au hasard ou à une coïncidence.
Ça se répète tellement que ce n'est pas possible que ce soit un hasard.
Surtout, c'est des détails. Ouais. C'est des détails. Si, par exemple, je sortais de mon corps là parce que j'avais un arrêt cardiaque et que je vous dis que dans le studio d'à côté, il y a une dame qui a un nez de clown et qui est en train d'écrire sur un papier avec un feutre bleu et que vous allez vérifier et que vous apercevez qu'il y a effectivement quelqu'un avec un nez de clown et qui est écrit sur... etc.
Ça pose des questions.
Ça pose des questions. Et moi, c'est cet aspect-là de vérification des témoignages qui a été pour moi primordial d'abord. Et ensuite, il y a l'autre facteur qui nous rassemble peut-être aussi autour de ces micros, c'est que cette expérience, elle a un impact colossal sur les gens qui les vivent. Des gens qui n'avaient pas forcément un chemin spirituel auparavant, qui, après cette expérience-là, vont avoir non pas une certitude qu'il y a une vie après la mort, une certitude mentale, mais une certitude de cœur, wow, une certitude presque physiologique. Je me souviens de ce témoin que j'évoquais à l'instant, qui était un vieux monsieur quand je l'ai rencontré. Il avait perdu deux de ses enfants, un de maladie et un autre d'accident de voiture. Et il me disait avec de l'émotion dans la voix, mes enfants me manquent, mais je sais où ils sont.
Wow.
Et je sentais dans ses yeux, dans l'intensité de son regard, que ce n'était pas une croyance fabriquée, c'était vraiment quelque chose qu'il avait éprouvé lui-même. Tous les témoins vous diront, je ne crois pas à une vie après la mort, je sais que ça existe, j'y suis allé.
Ouais. C'est presque ce que vous disiez tout à l'heure, d'une certaine façon, Vincent Terrien. Par une autre expérience. Hein.
Oui, et en fait, moi, j'abonde totalement dans ce que vient de dire Stéphane Alix, c'est qu'en fait, moi, avec mon père, je vis la continuité de... C'est pas une EMI, puisque mon père n'est pas revenu. Il est vraiment mort. Mais il me parle et il me dit très concrètement ce dont vous venez de parler à l'instant. Mmh. Il m'en parle, la lumière, etc. Tout ça, j'ai eu le droit.
C'est tellement bizarre.
Mais j'ai eu surtout le droit à des choses hallucinantes. C'est pour ça que j'ai adhéré au dialogue, finalement, parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible que ça soit pas vrai. Il y a eu deux anecdotes fondamentales. La première, il me raconte dans le détail, et là on rejoint les EMI, le moment de sa mort. Il s'est levé, il était très malade, il avait un cancer très avancé, et il s'est levé dans son appartement pour aller ouvrir la porte à un visiteur. Il s'est effondré devant la porte, ou un peu avant la porte, et il a été découvert par la gardienne de l'immeuble. Moi, j'étais pas encore là. Il me raconte exactement comment il est mort, ce qu'il a vécu, le moment où il a quitté son corps. Il me raconte qu'il s'est vu au-dessus dans l'appartement, qu'il a vu la gardienne arriver. Il me raconte tous les détails.
Et qu'est-ce qu'on fait de ça?
Alors attendez, le plus drôle, c'est que, évidemment, j'en ai parlé avec la gardienne.
Et c'est ça qui s'est passé?
Exactement ça qui s'est passé.
Mot pour mot.
Il y a même eu, m'a-t-elle dit, en complément, une tentative de réanimation, parce qu'elle a hurlé dans l'immeuble s'il y avait quelqu'un qui savait réanimer.
Waouh. Et qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, pourquoi il y a eu ça? Moi, je suis très dans le pourquoi, pardon, mais c'est vrai que c'est intriguant. Pourquoi? Alors, ça vous arrive à vous? Pourquoi?
Eh bien,
pourquoi,
oui, c'est ça qui est quand même paradoxal, parce que moi, je ne l'ai pas souhaité du tout, alors qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir parlé avec leur mort. Parler avec un père décédé, une mère décédée. Hein, mais moi, ce n'est pas du tout mon trip. Je ne le voulais pas, et surtout pas avec mon père. J'aurais aimé peut-être parler avec ma petite sœur qui est décédée il y a très longtemps, avec ma mère qui est décédée il y a très longtemps, mais mon père, non, je n'avais aucune envie.
Ouais.
C'est très injuste. Mais en fait, pas du tout. Et alors là, je vais simplement peut-être vous donner la parole d'un prêtre, mon oncle.
D'accord.
96 ans, toute sa tête, qui est actuellement à la retraite, mais qui est...
Bien vivant.
Bien vivant, très très bien vivant. Et qui me dit, parce qu'on a échangé évidemment sur le livre, il l'a lu, il m'a dit qu'il avait totalement derrière, il m'a dit « j'ai reconnu mon frère ». Bon, c'est quand même lui qui m'a dit ça.
Ouais.
Et en discutant, en rigolant un peu, j'ai dit ce qui serait vachement sympa, c'est que peut-être on écrive la suite ensemble le jour où, si jamais vous partez avant moi, ce qui est peut-être probable puisqu'il a 96 ans, mais enfin on ne sait jamais, eh bien peut-être qu'on pourrait écrire la suite ensemble. Et il m'a répondu, et ça va peut-être répondre à votre question, moi j'y suis tout à fait favorable. Mais seul, là-haut, en décidera.
Oui,
et je crois que ce qu'il a voulu me dire par là, sans chercher à interpréter, c'est que on peut souhaiter, c'est comme le téléphone, il faut déjà que les deux personnes le souhaitent, celle qui est encore vivante et celle qui est partie, souhaitent se parler. Bon. Mais une fois que le contact est possible, il faut encore qu'il y ait peut-être, au-delà de ça, quelque chose, quelqu'un, alors je ne mets pas de mots parce que je préfère pas en mettre pour pas trop cataloguer les choses, mais certains diront Dieu, d'autres diront l'univers, qui peut-être prend la décision de la pertinence de cet échange.
Eh bien, le lion est mort ce soir sans transition, et boum, Henri Salvador qui rugit là, dans les tiroirs de l'autre côté de cette régie. Et tout à coup, voilà, le lion débarque dans ce studio. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Oui. A wim away, 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 a wim away
La version Henri Salvador, le lion est mort ce soir sur Radio Notre-Dame. RCF et Stéphane Alix est avec nous. Lui qui a écrit La mort n'existe pas chez HarperCollins, Vincent Terrien qui a fondé l'INRES. Vincent Terrien est également avec nous. Lui qui a vécu une VSCD. Stéphane Alix, une vision subjective.
De contact avec un défunt,
voilà, qui raconte cette expérience hallucinante, extraordinaire, vraiment, vie sans crainte, c'est encore mieux après, chez Jouvence. Et enfin, nous sommes en ligne avec Patrick Tellier, qui a été médecin au bureau des miracles de Lourdes, et qui a lui aussi consacré un ouvrage il y a quelques années à ses expériences de mort imminente, lui qui a reçu des tas de témoignages autour de personnes qui avaient vécu ce type d'expérience, qui ont des tas de points communs entre elles. Effectivement, Patrick Tellier, ça, j'imagine que vous l'écrivez noir sur blanc dans votre livre. Ces points communs sont quand même assez édifiants. Ce que évoquait Stéphane, notre ami Stéphane, tout à l'heure, lumière, tout ça.
Oui, tout à fait. J'ai plein de retours à partir de mon premier livre. J'en ai écrit un second, d'ailleurs, que j'ai intitulé « Expérience de vie imminente », parce que les gens, ce qu'ils racontent, c'est la vie qu'ils ont vécue de l'autre côté.
D'accord.
Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont, pour eux, c'est une nouvelle naissance. J'aime ce terme, mais ils ne l'oublieront jamais. Ils y pensent tous les jours. Et pour eux, à ce moment-là, à partir de là, la mort fait partie de la vie, quoi.
D'accord.
Il y a pas de problème. Et par rapport à vos intervenants, là, en effet, on ne sait jamais pourquoi quelqu'un vit cette expérience.
Ouais.
Il y en a que, même des 20%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout le monde. Et c'est un mystère, ça. On ne sait pas. Et pourquoi certains ont des contacts avec les morts, on ne sait pas non plus. C'est pour nous qui décidons. Et je crois que ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas à rechercher. Si ça arrive, très bien, mais je ne vais pas rechercher.
Ouais.
Moi, j'ai quand même réanimé plusieurs personnes par massage cardiaque.
Ouais.
Pas de chance, ces gens-là n'ont pas fait de mort imminente en même temps. Bon, donc, j'ai interrogé après.
Ouais.
Mais les témoignages que j'ai en retour sont absolument extraordinaires. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un nouveau livre qui s'appelle « Expérience de mort imminente pour tous », parce que je pense que ces expériences ne sont pas réservées à ceux qui le vivent, justement. Et c'est intéressant que vous fassiez cette émission,
ouais,
parce qu'on est tous concernés par la mort, de toute façon.
Tout à fait.
Un jour ou l'autre, ça nous arrivera. Et donc, c'est important de se dire que c'est un passage pour une autre vie qui sera plus merveilleuse que celle que l'on vit ici, de toute façon, d'après les expérienceurs, ceux qui reviennent et qui viennent nous le dire, et qui ont beaucoup de mal à revenir, d'ailleurs, sur Terre, tellement ils étaient bien de l'autre côté.
Ouais, c'est vrai. Oh, c'est stupéfiant, parce que moi, j'en ai presque la chair de poule. J'ai jamais eu cette espèce de réaction bizarre dans cette émission. Stéphane Alix, c'est vrai, ça, ou pas?
Oui, sur
ils
le...
Ils n'ont pas envie de rentrer, après.
Ils n'ont pas envie de rentrer, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement paradoxal aussi, c'est qu'ils reviennent avec une raison de vivre, pour ceux qui n'en avaient pas. Le fait que le paysage décrit par ces expérienceurs soit merveilleux avait un peu inquiété les premiers psychologues qui travaillaient sur les sujets dans les années 70-80 en se disant « mais si on publie nos recherches, on risque de déclencher des vagues de suicides ». Et ils ont décidé de s'intéresser aux expérienceurs qui avaient vécu une expérience de mort imminente suite à une tentative de suicide. Et vous savez que sur une population lambda, je sais pas, de 100 personnes ayant fait une tentative de suicide sans expérience de mort imminente, vous allez avoir malheureusement un taux de récidive important. Vous prenez 100 personnes qui ont fait une tentative de suicide, qui ont vécu une expérience de mort imminente, combien de récidives vous avez ?
Zéro.
Et pourtant, ils sont allés dans un espace qui, a priori, est beaucoup plus apaisé, plein d'amour, alors qu'ils ont fui des difficultés ou des choses insurmontables sur Terre.
Wow.
Et j'avais interrogé plusieurs témoins de ce type, et notamment un garçon qui avait fait une tentative de suicide, qui était revenu après une expérience de mort imminente, et il m'a dit « Certes, la vie est extrêmement difficile, mais dans cette expérience de mort imminente, j'ai compris pourquoi. » J'ai compris le sens qu'avait l'existence et j'ai compris que la fuir en me suicidant n'allait absolument pas régler quoi que ce soit et qu'au contraire, le but de la vie, c'était peut-être justement de réussir à trouver la force de faire face aux adversités, aux difficultés de cette existence. Donc ça, c'est aussi un impact psychologique qui est très, très spécifique aux expériences de mort imminente que vous ne retrouvez pas dans d'autres expériences. Vous pouvez avoir un accident de voiture, avoir très très peur de mourir, mais n'avoir pas eu d'expérience de mort imminente, ça ne va pas vous impacter comme une expérience de mort imminente qui peut durer ne serait-ce que quelques secondes dans notre temps terrestre.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment frappant. Regardez, rien que le rêve est généré par l'activité cérébrale, une suractivité d'ailleurs, ce que l'on peut observer aujourd'hui, et pourtant, l'altérité qui peut caractériser certains de nos rêves est extrêmement difficile à mémoriser simplement au réveil. vous avez le rêve en tête, vous ouvrez un œil.
Il faut faire un énorme effort.
Il faut faire un énorme effort.
Ou le noter.
Il faut s'entraîner. L'expérience de mort imminente, c'est aussi, c'est mille fois plus intense qu'un rêve. Ça n'est pas un rêve, ça n'est pas produit par le cerveau. Et donc, la question de savoir est 20% des gens qui reviennent d'un arrêt cardiaque ont un souvenir d'expérience de mort imminente, mais peut-être que les 80 autres % ont aussi vécu quelque chose de cette nature, mais n'en ramènent aucun souvenir.
Ouais. Alors, à travers cette VSCD, vous avez vécu cette vision subjective de contact avec un défunt, Vincent Terrien, est-ce que vous n'êtes plus le même homme? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé maintenant?
Ce qui a fondamentalement changé. Est-ce que je peux juste revenir sur un mot? Parce que ce que vient de dire Stéphane Alix à propos du suicide, eh bien, j'en témoigne via mon père, parce que moi, je n'ai pas fait de mort imminente, hein, mais mon père m'en parle. Parmi beaucoup de choses, il me parle dans notre dialogue, qui va durer quand même très longtemps. Il me parle du suicide. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ce n'est pas une solution. Ça ne règle rien. Point barre. Il ne me dit pas, il ne faut pas suicider. Il me dit, ça ne règle rien.
D'accord.
Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, parce que ça corrobore vraiment ce que ressentent un grand nombre, dont Stéphane vient de témoigner, un grand nombre.
Oui, puis dans ce récit, c'est pas une injonction.
Non, c'est pas une injonction
morale, c'est plus un constat.
Ouais.
On fuit quelque chose d'extrêmement difficile, la vie se poursuit après. On continue notre évolution, on continue notre croissance spirituelle, et ceux qui sont revenus d'une expérience de mort imminente après une tentative de suicide reviennent avec la conviction qu'ils vont pouvoir faire face à ces difficultés et que le chemin spirituel consiste précisément peut-être à faire face aux difficultés sur cette planète pendant notre incarnation.
C'est exactement
mais
ça.
Mais il n'y a pas de jugement moral.
Il n'y a pas de jugement moral du tout. Et ça, il me le dit et il me le confirme concrètement. C'est-à-dire, il me le dit, je l'entends.
Alors, vous n'êtes pas devenu fou, Vincent?
Ah ben, au départ, je me suis posé les grosses questions.
Vous êtes allé faire des examens psychiatriques et tout?
Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais c'est en fait, lui me fournissait des anecdotes. Je vais vous en raconter une qui est quand même encore assez drôle.
Vous allez me faire peur, faites gaffe.
Non. Alors, ça va vous faire peur, ça va vous rassurer. Il est enterré à Montparnasse, donc juste à côté de vos bureaux. J'habite pas loin. Il me dit un jour, il avait soutenu des jeunes entrepreneurs, dont un qui s'occupait de créer une boîte de pompes funèbres, etc. Bon, un jeune. Il avait bien soutenu. Il me dit, tiens d'ailleurs, tu diras, je ne me souviens plus de son nom, que je ne suis absolument pas satisfait parce que ma tombe n'est toujours pas gravée. Un mois et demi après sa mort. Je me dis, on va se calmer, j'irai voir demain. Je vais à Montparnasse, ça tombait juste à côté de celle de Chirac, de Gainsbourg, etc.
Ah bah dis-donc.
Oui, il est très bien logé. Effectivement, la tombe n'est pas gravée.
C'est un peu
J'appelle sur place, devant la tombe, j'appelle l'emprise. Je dis, vous savez, enfin tu sais, parce que je le tutoyais, je connaissais ce garçon. Tu sais, mon père n'est pas content du tout. Il ne me dit pas, mais comment tu sais que ton père n'est pas content? Il me dit, j'ai complètement zappé. Je m'en occupe tout de suite.
C'est hyper bizarre quand même.
Et des choses comme ça, il va y en avoir tellement qu'au bout d'un moment, je vais me dire, bon, c'est bon, Vincent, tu n'es pas dans un délire, tu n'es pas parti. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est je sens concrètement pourquoi on a ce dialogue.
Alors, allez-y.
Eh bien, mon père me le dit. Pour lui, à quoi ça lui sert? Il lui dit, je suis dans une étape intermédiaire. Et il me dit, j'ai besoin, parce qu'il a fait mener une vie très, 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 très difficile à beaucoup de gens, dont moi, mais je ne suis pas le seul. J'ai besoin, il me dit, je vois les choses, je comprends maintenant. Je comprends maintenant parce que je suis dans le regard des gens avec qui j'ai interféré sur Terre. Et je comprends leur réaction par rapport à ce que j'étais. Et alors ça, moi, ça m'a vraiment parlé parce que je sais, que, comme tout le monde, qu'on parle toujours du film de sa vie. Vous savez, quand on meurt, il paraît qu'on revoit le film de sa vie. Mais on ne le revoit pas tel qu'on l'a vécu. On le revoit à travers le regard des gens avec qui on interférait.
Ah ouais.
Ça, c'est une caractéristique.
Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve partout. Mmh. Et donc, c'est fabuleux parce que je me dis, bon, ben là, ça corrobore. Parce que mon père n'était pas du tout là-dedans. Hein. Mon père était catholique, catholique, pratiquant comme ça, enfin, voilà, mais sans se poser trop de questions, il s'en est posé un peu à la fin, mais pas plus que ça. Mm-hmm. Mais il n'était pas du tout dans les sujets spiritualité un peu hors religion, non, pas du tout. Il était très pragmatique, c'est quelqu'un de très
rationnel, quoi.
Et là, il me raconte des trucs dont j'ai entendu parler, je me dis, et après, bien sûr, j'ai lu les livres de Stéphane, j'ai lu beaucoup de livres. Pour aller voir si ça
corrobore. Ça vous a rassuré aussi, d'une certaine façon?
Alors, j'ai pas vraiment besoin d'être rassuré, parce que je cherche à convaincre personne. Je livre un témoignage. C'est mon témoignage.
Non, mais vous auriez pu être affolé par ça.
Parce que j'ai senti que ça pouvait pas ne pas être lui. D'accord. C'était une évidence, c'était clair, net et précise. Tout ce qu'il me raconte.
Vous avez, c'est vrai que vous êtes posé la question, certainement. C'est vrai qu'on aurait pu être quelqu'un d'autre, en fait. C'est vrai, vous avez raison. Vous ne l'aviez pas vu, en fait.
Quelqu'un d'autre, j'ose imaginer
ça
que
si
l'univers, ou peut-être Dieu, et parlons de Dieu ici, ouais. puisque c'est un mot qu'on emploie,
une qualification tous les
jours. Vous employez tous les jours. Moi, j'emploie plutôt l'univers, mais pour d'autres raisons. A donné son accord pour que ce dialogue ait lieu, parce que ça corroborait ce que m'a dit mon oncle curé, et je le crois assez, je pense que c'est peut-être ce qui explique le fait que certaines personnes qui aimeraient bien avoir un contact avec un défunt ne l'ont malheureusement pas, ou dans un premier temps, ou l'ont peut-être plus tard.
Vous entendiez sa voix? Je ne vous ai pas posé la question.
Ah ben, elle était dans ma tête.
Ah d'accord, ok.
Et alors, comme mon père savait que bon, je suis un ancien journaliste de la presse écrite, j'écris avec mes 10 doigts et très très vite, il m'a dit un jour, prends ton ordinateur et écris. Et ça a commencé comme ça. Donc j'ai écrit 150 pages de dialogue. J'ai tout écrit. Et puis quand ça a été terminé, j'ai mis ça de côté, j'ai dit bon allez c'est bon, on a parlé de tout, maintenant je fais ma vie, il fait la sienne là où il est, et puis on n'en parle plus. Et puis après, va se passer un certain nombre de choses qui vont me pousser à écrire, à faire de ce témoignage un bouquin, ce dont je ne voulais absolument pas au départ, parce que je parle de choses quand même assez intimes, de ma famille, et c'est pas le genre de la maison de se
Vous dites que ça pourrait nous aider, que ça pourrait nous aider à nous réconcilier avec la mort pour reprendre le sujet du jour.
Je n'ai aucune vocation à vouloir convaincre qui que ce soit, c'est un témoignage parmi d'autres. Simplement, je sais que, pour moi, je l'ai vécu, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est à 100%.
Patrick Taillet, s'il fallait répondre maintenant, au fond, au sujet, la question posée dans l'émission, est-ce que, ça, d'une certaine façon, oui, ça nous réconcilie donc avec la mort, quand parce qu'on a beau être catho, chevronné, grenouille de bénitier, voilà, grand religieux, etc., avoir une foi chevillée au corps, etc., on peut être angoissé à l'idée de mourir. Et là, à votre avis, que ça apporte?
Tout le monde est angoissé à l'idée de mourir parce qu'on a peur de ce qui va se passer avant et après la mort, qui est un passage en fait. Et c'est vrai que ça nous réconcilie avec la mort dans la mesure où, à travers ces expériences, on a la certitude, franchement, tous ceux qui l'ont vécu le disent et ne reviennent jamais dessus, qu'il y a une vie après la mort et que cette vie est extraordinaire. Qu'on est encore vivant, d'une autre façon, mais on est vivant. Et ils rencontrent, alors plus étonnamment, ils rencontrent souvent des défunts de leur famille qui n'avaient peut-être pas connu très longtemps. Moi, je me souviens d'une jeune femme d'une quarantaine d'années, une des premières qui m'a raconté son histoire. Elle avait 5 ans quand sa grand-mère est morte. Et quand elle a fait son expérience, elle a rencontré sa grand-mère. Mais elle me disait, mais ma grand-mère avait rajeuni, elle était transfigurée. Je ne lui donnais plus d'âge et pourtant quand elle est morte elle était âgée et c'est elle qui m'a dit tu retournes, c'est pas ton heure. Donc l'ordinaire c'est que les expérienceurs rencontrent des personnes qui sont avec leur corps puisque sinon ils ne pourraient pas les reconnaître.
Oui, forcément.
Ils ne pourraient pas les reconnaître, ils les reconnaissent parfaitement. Donc c'est quand même assez étonnant. Je pense que ça doit nous réconcilier avec la mort, absolument, c'est ce que je voudrais, moi, c'est que tous nous ayons cette certitude qu'il y a une vie après la vie, et que c'est la suite, c'est le prolongement de notre vie ici actuelle, c'est pas une autre vie. Et donc, c'est à préparer dès maintenant, en effet. Et beaucoup, d'ailleurs, vivent une revue de la vie, on en a parlé tout à l'heure, on voit le film de leur existence passée en un seul coup d'œil.
Oui.
Et ce qui est étonnant, c'est que l'être de lumière, comme ils l'appellent, c'est-à-dire cette lumière pleine d'amour, qui est une rayonnante lumière, mais pleine d'amour, semble tout connaître d'eux, et leur pose la question, qu'as-tu fait de ta vie? Mais avec, ils le disent eux-mêmes, beaucoup de tendresse, beaucoup de... sans reproche, sans blâme, sans culpabilisation, mais avec toute l'exigence de l'amour en même temps. Alors, ce n'est pas un jugement, mais c'est le sujet qui comprend lui-même en quoi il a bien ou mal agi.
Oui.
Il fait la vérité avec lui-même et il ressent tout le bien ou tout le mal qu'ils ont pu faire aux autres, comme si ça l'était fait à eux-mêmes, d'une certaine façon. Oui. Alors ça, c'est une expérience quand même intéressante.
Oui.
Et il en sort un état de grande sérénité, très, très profonde, dépassant tout ce qu'il a pu vivre sur Terre.
D'où le titre de votre livre, au fond, pour terminer, Stéphane Hennix, malheureusement, l'émission touche bientôt à sa fin. C'est ça, c'est, l'objectif, c'est de nous rassurer, au fond, à partir de toutes ces expériences, soyons prudents. Mais bon, c'est un postulat...
C'est l'effet secondaire de l'intérêt qu'on peut porter à ces sujets. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, c'était d'un abord uniquement journalistique. J'étais extrêmement exigeant sur le niveau de preuve que je voulais. Je refusais toute considération d'expérience subjective. Je voulais des choses objectives. Et je n'ai eu de cesse que d'enquêter sur les expériences de mort imminente, sur le sujet de la médiumnité, sur ces expériences que Vincent nous partage de vécu avec un contact, avec un défunt, pardon, les expériences qui se passent autour de la fin de vie en hôpital de soins palliatifs, enfin, quantité d'expériences qui se produisent autour de nous auxquelles on ne prête pas attention.
Ouais.
Et j'ai vu au fil du temps des retrouvailles avec une forme de spiritualité que j'avais peut-être abandonnée à l'adolescence. Moi, je suis devenu reporter de guerre très jeune.
Ouais.
La confrontation à la violence du monde m'a écrasé toute velléité de cheminement spirituel, parce que pour moi, le monde était tellement horrible et tellement
ténébreux,
ténébreux et violent. Et je dirais que de questionner ce sujet-là, avec mon esprit journalistique, m'a fait revenir à une forme d'évidence que nous ne sommes pas que des machines, des sacs d'os et de chair, nous sommes des êtres spirituels, comme le disait Teilhard de Chardin, qui faisons une expérience humaine. Et ça, c'est pas un vain mot.
Ouais.
Et je l'ai expérimenté indirectement sur ma fille, qui avait 3 ans quand son oncle est mort, quand mon frère est décédé. Et ma fille a accompagné d'une oreille attentive toutes ces années mes recherches.
Alors, ne vous inquiétez pas, l'émission ne se termine pas. C'est juste la deuxième séparation musicale. Mais c'est vrai que je suis... c'est une émission très particulière aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs. N'hésitez pas, auditeurs du show, à nous à réagir à l'adresse marieange.demontesquieu@radionotredame.com et sur la page Instagram, Facebook de l'émission. Heard, Johnny Cash. Et allez, on se retrouve après. À tout de suite.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know go away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. Down.
Heart sur Radio Notre-Dame, Johnny Cash. L'expérience de mort imminente au menu du jour peut-elle nous réconcilier avec la mort? Il semble que oui, en écoutant mes trois invités du jour qui sont Stéphane Alix, journaliste qui a fondé l'INRES, je le rappelle, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. N'ayez pas peur, tout va bien. Il a publié un ouvrage en tout cas qui nous réconcilie avec la mort. La mort n'existe pas, c'est un petit peu provoquant évidemment comme titre, mais le contenu nous rapproche et nous rassure.
Mais c'est provoquant. C'est que ça soit provoquant sur France 2 le samedi soir, je veux bien, mais chez vous, à votre antenne, est-ce que c'est pas une évidence que la mort n'existe pas?
Si, parce qu'elle existe chez nous. En fait, elle existe, la mort. Ouais, la mort est un passage, mais la mort, on vit et on meurt. Le Christ est mort, été. Donc ça fait vraiment, voilà, c'est pour ça que je dis ça.
Je vous taquinais, mais...
Après, je vous ai bien eu un partout. En revanche, c'est provoquant au sens où, elle est là, la mort, on la constate, on n'a pas tous des expériences de mort imminente.
Et ce que pose ce titre, c'est « Qu'est-ce qui meurt ?» Qu'est-ce qui meurt de
ça,
nous
c'est, ça, c'est bien répondu.
Qu'est-ce qui meurt? Évidemment, notre corps mort, nos organes, notre biologie part en poussière. Mais est-ce qu'on est constitué uniquement de ça? Est-ce que notre être se résume à ce qu'on voit dans la glace latin? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental, cette âme, cette conscience fondamentale? C'est ça que veut dire ce titre.
Magnifique,
notre âme fondamentale ne meurt pas.
Alors j'adhère, c'est bon, vous pouvez rester. Cool. Harper Collins pour l'éditeur. Vincent Terrien, qui a vécu une vision subjective de contact avec un défunt qui était son papa, vit sans crainte, c'est encore mieux. Après, si souvent, c'est enfin en ligne. Nous sommes en ligne avec Patrick Taillet, qui a été médecin au bureau des miracles de Lourdes, médecin scientifique, qui a écrit plusieurs livres justement sur les expériences de mort imminente, puisque c'est de nombreux témoignages de patients, de personnes qu'il a rencontrées dans le cadre de son travail à Lourdes, lui ont raconté ce genre d'expérience. Alors maintenant, il y a en plus on sent qu'il y a une méthodologie autour de parce qu'il y a des personnes qui peuvent raconter un petit peu n'importe quoi, il y a des personnes qui peuvent être atteintes de maux psychologiques, psychiatriques, j'en sais rien, c'est fanalisme, mais c'est vrai que vous avez maintenant, on sent que la science s'est vraiment emparée de l'expérience de mort imminente, quoi. Ça a l'air quand même très sérieux maintenant.
Plus de 50 ans aujourd'hui qu'on a développé des techniques de réanimation qui permettent de ramener des gens d'arrêt cardiaque. Donc effectivement, parmi millions de personnes qui reviennent, on a aujourd'hui des centaines de milliers de témoignages d'expériences de mort imminente sur lesquelles on peut travailler. Il y a des équipes internationales qui bossent dessus, à la fois sur l'aspect psychologique et sur l'aspect physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui ne se passe pas dans le cerveau, justement, qui permet cette expérience-là? Donc on a un recul qui nous permet aujourd'hui de savoir que cette expérience, c'est pas du rêve, c'est pas un problème psychologique, c'est pas de l'imaginaire, et ça intervient surtout à des moments où le cerveau n'est plus en capacité de fabriquer une expérience consciente.
Ouais.
Donc ça pose la question fondamentale de la relation entre cerveau et conscience, et ça apporte un élément de preuve que je détaille vraiment dans le livre, qui montre qu'une partie de notre conscience, qu'on va appeler la conscience fondamentale, n'est pas produite par notre cerveau. Et quand notre cerveau meurt, notre conscience fondamentale, elle, ne meurt pas.
Waouh! Alors là, ça va plaire à notre ami Patrick Taillet, vous confirmez que c'est une affaire au-delà du cerveau, au fond. Hein. C'est la conscience, ça touche à des choses dont la conscience, c'est ça? Patrick Taillet, qui est toujours avec nous, je l'espère.
Oui, alors on peut mettre plusieurs mots sur cette conscience fondamentale dont parle Stéphane Alix. Pour moi c'est l'âme. C'est l'âme qui est cette conscience fondamentale.
Ouais.
Et à mon avis, on aura beau faire toutes sortes de recherches scientifiques, si on veut comprendre des expériences de mort imminente, c'est l'anthropologie judéo-chrétienne qui peut l'expliquer, dans la mesure où elle considère qu'on est fait d'un corps, certes, mais aussi d'une âme et d'une âme spirituelle capable de Dieu. Et donc, au moment de la mort, on sait que l'âme se sépare du corps tout en gardant l'empreinte du corps tout le temps, parce que corps et âme ne font qu'un. Et pour moi, les expériences de mort imminente, c'est un moment où il y a cette distanciation qui a lieu au début de la mort et qui aura lieu pour tout le monde, parce que la mort, ce n'est pas brutal, ça se fait avec un certain temps, ça peut être d'ailleurs très long. Donc cette distanciation qui a lieu, et puis le fait que l'âme revient dans le corps. Et donc, moi, je le vois comme ça. Je pense pas que les études scientifiques, d'autant qu'on peut pas faire d'expérience, on peut pas tuer quelqu'un pour voir s'il va revenir. Hein.
C'est pas possible.
Donc, on est obligé de prendre ce qui vient. Et alors, je suis d'autant plus convaincu que Il y a beaucoup de rapports, et dans mes livres j'en parle pas mal, avec les guérisons miraculeuses. D'une part, on ne peut pas provoquer une guérison miraculeuse. Et deuxièmement, pourquoi certains guérissent et pas d'autres ? De même, les EMI, on ne peut pas les provoquer. Et pourquoi certains font une EMI et pas d'autres ? En tout cas, on ne s'en rappelle pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment une explication qui est forcément en rapport avec cette anthropologie corps-âme-esprit.
Stéphane Alix, ça corrobore ce que vous faites, dit d'une autre façon ce que vous disiez.
Bah effectivement, la science est un outil extraordinaire de validation de notre réalité, mais elle arrive à ses limites aussi dès lors qu'il s'agit d'étudier la conscience. La conscience, aujourd'hui, reste un des plus grands mystères scientifiques. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça émerge, quelle relation ça a avec le cerveau. Donc, effectivement, faire des recherches en neurosciences sur la question de l'expérience de mort imminente confronte assez rapidement à une limite, parce qu'on cherche dans le cerveau quelque chose qui n'a pas été produit par le cerveau.
D'ailleurs, vous demandez vite, vous reprenez les travaux de Stephen Lorez en disant « D'emblée, nous voilà au cœur du débat, le cerveau est-il encore actif ou non pendant ces expériences ?»
Tous les modèles aujourd'hui qui sont utilisés en neurosciences postulent plus ou moins que le cerveau fabrique toutes nos expériences conscientes. L'expérience de mort imminente contredit ça. Donc la question, pour moi, est de vérifier si ces expériences de mort imminente ont des éléments objectivables. Et je parlais en début d'émission de ces perceptions extrasensorielles qui sont rapportées par les témoins, disant être sortis de leur corps et avoir observé des choses vérifiables. Rien que de vérifier cet aspect-là, des gens sont sortis de leur corps, ils ont pu dire ce qui se passait dans le bâtiment à côté, dans les pièces d'à côté. Ça invalide l'explication physiologique. Disons que l'expérience a été produite par le cerveau. Donc effectivement, la science est assez limitée, mais on ne peut pas provoquer d'expérience de mort imminente, évidemment. Enfin, il y a eu un film de fiction il y a quelques années qui retraçait le parcours de certains étudiants en médecine qui s'induisaient des arrêts cardiaques pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Moi, j'aurais été volontaire, mais aujourd'hui, par exemple, on a, dans les études qui sont faites, notamment avec des entéogènes, on a réussi à induire des expériences psychospirituelles aussi intenses que l'expérience de mort imminente. Les entéogènes sont utilisés sont étudiés depuis quelques décennies pour leur formidable implication dans les parcours thérapeutiques, par exemple. Mais il y a une équipe à Londres, que je cite dans le livre, qui depuis 2011 fait des recherches sur justement la dimension spirituelle de l'expérience induite artificiellement. Et on arrive aujourd'hui à provoquer, avec ces substances-là, des expériences aussi intenses en termes de phénoménologie que l'expérience de mort imminente. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que les recherches qui ont été faites en laboratoire et en étudiant le cerveau de volontaires à qui on injectait ces substances ont montré, à l'inverse de ce qu'on imaginait, une baisse de l'activité cérébrale dans le cerveau.
Ah oui, d'accord.
On s'imaginait qu'une expérience mystique ou psychospirituelle extrêmement intense allait coïncider avec un feu d'artifice d'activité dans le cerveau.
En fait, pas du tout.
Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc, oui, la science est limitée, mais en même temps, en utilisant l'outil scientifique, en approchant le sujet de différents angles, l'expérience de mort imminente, les recherches avec les entéogènes, etc., on s'aperçoit que toutes ces recherches indiquent une seule et même chose. Notre cerveau ne fabrique pas notre conscience. Notre cerveau a un autre rôle dans peut-être le filtrage ou l'expression de la conscience dans notre incarnation physique aujourd'hui, mais la conscience est indépendante du cerveau. Ça, c'est une réalité qui peut aujourd'hui être objectivée et qui est autour de laquelle un certain nombre de scientifiques...
Alors, cette quête de l'homme augmenté, du super-pouvoir, de l'enrichissement sans limite, ça vous fait doucement rigoler, en fait. Ça vous fait pleurer, peut-être même.
Non, je suis très curieux et très intrigué par le... Mais j'ai le sentiment que la motivation de ces recherches-là est une peur criante de la mort, et surtout une impossibilité à considérer cette dimension spirituelle qui est une évidence. Notre réalité est une réalité spirituelle. Et effectivement, dans notre monde de consommation, dans notre monde matérialiste, aux antipodes de ça, on a envie de préserver ce que l'on connaît, c'est-à-dire notre corps, ce que l'on considère comme notre identité. Mais vous savez, tous les courants spirituels vous disent plus ou moins la même chose. Notre identité n'est pas ce visage, notre identité n'est pas notre prénom, notre biographie.
Depuis les pères de l'Église, depuis des siècles et des siècles et des
siècles. Nous avons une âme, nous avons une conscience, nous avons, le terme diffère, mais la réalité est la même, nous avons une partie fondamentale de nous-mêmes qui survit à la mort du corps et qui n'est pas, qui est cachée au fond de nous durant notre existence.
Vincent Terrien, justement, la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, vous n'avez pas encore tout à fait répondu, qui devenu ? maintenant. Êtes-vous le même Vincent que, j'imagine que non.
Non, je ne suis pas le même. Je suis d'une très grande sérénité par rapport à la mort, pour plusieurs raisons. Ça corrobore ce que vient de Stéphane, effectivement. La conscience existe quoi qu'il arrive. Elle existe au-delà du corps. Donc là, ça se prolonge. L'expérience que j'ai vécue avec mon père, qui en témoigne d'une façon flagrante, puisque sa conscience est toujours là, même si son corps est dans une tombe à Montparnasse.
C'est-à-dire que tous nos morts sont là, finalement. C'est ça que ça
tous nos morts sont
proche,
là.
Quoi.
Oui, bien sûr. Et il a une vraie conscience, c'est-à-dire qu'il me parle de ses rencontres avec ma mère, avec ma sœur, et il me parle de choses très concrètes. La conscience vit, elle est. Donc ça apporte une très grande sérénité, et surtout, ce qu'il me dit, c'est que c'est très réjouissant.
Waouh.
Et à un moment donné, dans le fil de notre dialogue, il me dit je te donnerai le titre de ton livre. Et le titre qui va me donner à la fin. Le titre, c'est Vie sans crainte, c'est encore mieux après. Ça ne veut pas dire que ça pousse au suicide, attention, hein, parce qu'il dit bien que non. Mmh. Mais il dit qu'après, oui, c'est très, très enthousiasmant.
Eh bien, alors, bravo. Ouais. Ben voilà, c'est le mot de la fin, puisque c'est votre livre. Je termine par là. Merci infiniment, Vincent Terrien. Aux Jouvences, merci d'être venu témoigner. Stéphane Alix, merci également. Et votre beau livre, La mort n'existe pas, chez HarperCollins. Merci, Stéphane Alix. Et merci enfin à Patrick Tellier. Et vos ouvrages, hein, j'ai presque envie de dire, dont celui chez Arthège, consacré justement à l'expérience de mort imminente. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et continuons d'explorer ce passionnant sujet. J'espère qu'on n'a pas trop choqué les auditeurs. Bonne soirée.